Les essais, livre 3, chapitre 9, de la vanité. Il n'en est probablement pas de plus flagrante que d'écrire aussi vainement à son propos. Ce que la divinité nous en a si divinement exprimé, devrait-elle soigneusement et constamment méditer par les gens intelligents ? Qu'il voit que j'ai choisi une route sur laquelle, sans cesse et sans peine, j'avancerai tant qu'il y aura de l'encre et du papier dans le monde. Je ne puis tenir le registre de mon existence en notant mes actes. Le destin les place trop bas. Je le fais donc avec mes pensées. Ainsi ai-je vu un gentilhomme qui ne parlait de sa vie que par les mouvements de ses intestins. On voyait exposer chez lui une série de bassins datant des 7 ou 8 derniers jours. C'était son étude, le sujet de ses réflexions, et pour lui, tout un sujet était puant. Ce que je livre ici, ce sont, de manière un peu plus civile, des excréments d'un vieil esprit, tantôt dur, tantôt mou et toujours indigeste. Et quand serais-je venu à bout de la représentation de mes pensées, en continuelle agitation et transformation, sur quelque sujet que ce soit, puisque Diomède lui a rempli 6000 livres sur le seul objet de la grammaire. Que doit produire le bavardage, puisque le seul bégaiement et le simple fait de dénoncer la langue provoquèrent l'étouffement du monde sous une charge aussi épouvantable de volume. Tant de paroles pour des paroles seulement. Ô Pythagore, si seulement tu avais conjuré cette tempête. Autrefois, on a accusé un certain Galba de vivre dans l'oisiveté. Il répondit que chacun devait rendre compte de ses actes et pas de ses loisirs. Mais il se trompait. La justice s'intéresse aussi à ceux qui ne font rien et cherche à les corriger. Il devrait donc y avoir aussi quelques coercitions légales envers les écrivains incapables et inutiles, comme il y en a contre les vagabonds et les fainéants. On bannirait ainsi de chez nous et moi, et cent autres. Ce n'est pas une plaisanterie. Les écrivaillons me semblent être le symptôme d'une époque déréglée. Avons-nous jamais écrit autant que depuis que nous sommes en proie à des troubles ? Et les Romains ont-ils jamais écrit autant que pendant leur décadence ? Et de plus, dans une société, l'affinement des esprits ne signifie pas qu'ils deviennent plus sages. Cette occupation d'oisif a pour origine le fait que chacun se consacre mollement à sa profession, sans désintérêt. La corruption de l'époque est la conséquence de ce que fait chacun d'entre nous. Les uns y apportent la trahison, les autres l'injustice et l'irréligion, la tyrannie, la cupidité, la cruauté, selon l'importance qu'ils ont. Les plus faibles y apportent la sottise, la vanité, l'oisiveté. Puis à la suite ceci, il semble que ce soit, quand les malheurs nous cernent, que nous nous consacrons aux choses futiles, et quand il est si courant d'agir méchamment, faire simplement quelque chose d'inutile, on est presque louable. Je me rassure en me disant que je serai parmi les derniers sur lesquels on mettra la main. Et pendant qu'on s'occupera des plus urgents, j'aurai le temps de m'amender. Car il semble qu'il serait contraire à la raison de poursuivre les menus inconvénients alors que nous sommes infestés par les grands. Ainsi le médecin Philotimos déclara-t-il à celui qui venait lui présenter son doigt à panser, et chez qui il décelait par son haleine et son visage un ulcère au poumon, « Mon ami, c'est pas le moment de perdre ton temps à t'occuper de tes ongles. » J'ai vu pourtant, il y a quelques années, un personnage dont je garde un vif souvenir, qui au milieu de tous nos malheurs pendant lesquels il n'y avait ni loi, ni justice, ni magistrat qui remplissent son office, pas plus que maintenant d'ailleurs, se mit en tête de publier je ne sais quel décret pour réformer les façons de se vêtir, de faire la cuisine et la procédure de justice. Ce sont là des abusettes avec lesquelles on repaie un peuple maltraité, pour montrer qu'on ne l'oublie pas tout à fait. Et ne faut-il pas la même chose, ceux qui, à chaque instant, prétendent réglementer les façons de parler, de danser, de jouer d'un peuple adonné par ailleurs à toutes sortes de vices exécrables? Ce n'est plus le moment de se laver et d'écrasser quand on est atteint par une bonne fièvre. C'est bon pour les Spartiates de se mettre à se peigner et se coiffer au moment de se précipiter dans quelque danger et y mettre leur vie en péril. Quant à moi, j'ai une habitude encore plus déplorable. Si j'ai une chaussure de travers, je laisse aussi de travers ma chemise et mon manteau, car je n'aime pas faire les choses à moitié. Quand je suis en mauvais état, je m'acharne à l'être plus. Je m'abandonne au désespoir, je vais vers le précipice et je jette, comme on dit, le manche après la cognée. Je m'obstine à faire empirer les choses et je ne m'estime même plus digne de m'en occuper de moi. Ou tout bien, ou tout mal. C'est pour moi une chance que le délabrement de notre état ne survienne qu'au moment de mon déclin. Je supporte plus facilement que mes maux en soient renforcés maintenant que si mon bien-être avait été menacé autrefois. Ce que j'exprime face au malheur, c'est du dépit. Je me hérisse au lieu de m'aplatir. Et à l'inverse des autres, je me sens plus porté à la dévotion dans le bonheur que dans le malheur, suivant le précepte de Xénophon, sinon suivant la raison qu'il en donne. Et je fais plus volontiers les yeux doux au ciel pour le remercier que pour le requérir. Je me soucie plus d'améliorer ma santé quand elle est florissante que de la rétablir quand je l'ai laissée filer. Les choses favorables me servent de règle et de leçon, comme pour les autres, l'adversité et les coups reçus. Comme si la bonne fortune était incompatible avec la bonne conscience, les hommes ne deviennent des gens de bien que lorsque tout va mal. Le bonheur est pour moi un très bon aiguillon à la modération et à la modestie. La prière me convainc, la menace me rebute, la faveur me rend souple, la crainte me raidit. Parmi les travers humains, celui-ci est assez commun, qui consiste à aimer plus les choses étrangères que les nôtres. Aimer le changement, le déplacement. Si la lumière du jour luit pour nous agréablement, c'est que l'heure revient avec de nouveaux coursiers. Pétrone. J'y prends ma part. Ceux qui suivent une voie opposée et qui se contentent d'eux-mêmes trouvent que ce qu'ils ont est mieux que tout le reste et que rien n'est plus beau que ce qu'ils voient. Ceux-là ne sont peut-être pas plus avisés que nous, mais sont certainement plus heureux. Je n'envie pas leur sagesse, mais certainement leur sort. Cette humeur avide de choses nouvelles, inconnues, contribue à nourrir en moi le désir de voyager. Mais bien d'autres circonstances y participent. Je me détourne volontiers de la conduite de ma maison. Il y a quelque agrément à commander, fût-ce dans une grange, et à être obéi des siens. Mais c'est un plaisir trop uniforme et lassant. Et il est par nécessité mêlé à des pensées fâcheuses. Tantôt c'est l'indigence des gens de vos terres et le souci qu'ils vous causent. Tantôt une querelle avec vos voisins, tantôt leur façon d'empiéter sur votre domaine. Tout cela vous afflige. Horace disait: ce sont vos vignes que la grêle ravage, le sol qui déçoit vos espérances, les arbres qui se plaignent tantôt de l'eau céleste, des astres qui brûlent les terres ou des hivers trop rigoureux. En 6 mois, Dieu vous enverra à peine une période dont votre intendant sera vraiment content, mais avec la crainte que, si elle est utile aux vignes, elle ne nuise aux prés. C'est un soleil ardent qui brûle vos moissons, ou de soudaines pluies, des gelées, des rafales, du vent violent qui le détruisent. Lucrèce. Et ajoutez à cela, comme le soulier neuf est bien fait de cet homme d'autrefois, ce qui vous blesse le pied sans qu'on le voie. Un étranger ne peut comprendre combien cela vous coûte et quel sacrifice vous devez consentir pour maintenir cette apparence d'ordre que l'on voit chez vous. Et peut-être bien que vous payez cela trop cher. J'ai commencé tard à m'occuper de ma maison. Ce que la nature avait fait naître avant moi m'ont longtemps déchargé de ce soin. J'avais pris un autre pli qui convenait mieux à mon caractère. Mais toutefois, pour ce que j'en connais, c'est une occasion plus accaparante que difficile. Quiconque est capable d'autre chose le sera bien aisément de celle-là. Si je cherchais à m'enrichir, cette voie-là me semblerait trop longue. Je servirais plutôt les rois, occupation plus lucrative que toutes les autres. Comme je ne prétends acquérir d'autre réputation que celle de n'avoir rien acquis ni rien gaspillé, et que conformément au reste de ma vie, je suis incapable de faire quoi que ce soit, en bien ou en mal, et que je me sens que le passage, je puis bien faire cela, Dieu merci, sans trop de peine. Au pire, sachez éviter la pauvreté en retranchant sur vos dépenses. C'est à cela que je m'applique et à me réformer avant qu'elle ne m'y surgrigne. J'ai de toute façon institué dans mon esprit assez de degrés pour pouvoir me contenter de moins de ce que j'ai, mais sans déplaisir. Ce n'est pas, dit Cicéron, en calculant ses revenus, mais d'après sa façon de vivre et ses besoins que l'on peut mesurer la fortune de quelqu'un. Mes vrais besoins n'épuisent pas ce dont je dispose. Le sort peut encore me mordre sans m'atteindre à vif. Ma présence, si ignorant et peu intéressé que je sois, est fort utile à mes affaires domestiques, auxquelles je l'emploie, mais à contre-cœur. S'ajoute à cela le fait qu'ici, quand je brûle de la chandelle seulement par un bout, à l'autre bout, on ne se prive de rien. Les voyages ne me gênent que par les dépenses qu'ils entraînent, qui sont grandes et dépassent mes moyens. C'est que j'ai l'habitude de les faire avec un équipage non seulement nécessaire, mais convenable. Il me faut donc les faire d'autant plus courts et moins fréquents. Je n'y emploie que le surplus et mes économies en temporisant et remettant à plus tard selon mes possibilités. Je ne veux pas que le plaisir de me promener vienne gâter celui de mon repos. À l'inverse, je veux qu'ils se nourrissent et se favorisent mutuellement. Mon sort m'a favorisé en ceci. Ma principale profession dans cette vie étant de vivre tranquillement, ou plutôt calmement qu'affairé, je n'ai pas eu besoin de multiplier mes richesses pour pouvoir la multitude de mes héritiers. N'en ayant qu'un seul, tant pis pour lui s'il n'a pas assez de ce que j'ai mal trouvé, moi pour mon compte. Bien suffisant et même largement. S'il est un prévoyant, ce n'est pas une raison pour que je veuille lui en laisser davantage. Et selon l'exemple de Phocion, ce qu'on lègue à ses enfants leur suffit dans la mesure où ils vous ressemblent. Je ne suis pas du tout d'avis de faire comme Cratès, qui laissa son argent chez un banquier avec cette condition. Si ses enfants étaient des sots, qu'il leur donne cet argent. S'ils étaient intelligents, qu'ils le distribuent aux plus sots du peuple. Comme si les sots, pour être au moins capables de s'en passer, étaient plus capables d'user des richesses. Toujours est-il que les inconvénients entraînés par mon absence ne me semblent pas justifiés tant que je serai en mesure de les supporter, que je refuse les occasions qui se présentent de me soustraire à cette présence pénible. Il y a toujours quelque chose qui va de travers. Les affaires, tantôt d'une maison, tantôt d'une autre, vous tiraillent. Vous examinez les choses de trop près, votre perspicacité vous nuit en cela, comme elle le fait d'ailleurs souvent aussi. J'esquive les occasions de me tourmenter, me détourne pour ne pas voir ce qui va mal. Mais j'ai beau faire, à tout instant, je me heurte chez moi à des choses qui me déplaisent, et les friponneries qu'on me cache le plus sont celles que je connais le mieux. Il en est d'ailleurs qu'il vaut mieux contribuer soi-même à dissimuler pour en souffrir moins. Ce sont des soucis, parfois sans importance, mais des soucis quand même. Les ennuis les plus menus et les plus insignifiants sont les plus agaçants. Et de même que les petites lettres fatiguent plus les yeux, les petits tracas nous touchent plus. La foule des menus ennuis nous atteint plus qu'un seul, si grand soit-il. Et plus ces épines domestiques sont fréquentes et aiguës, plus fort elles nous piquent sans prévenir, nous prenant facilement à improviste. Je ne suis pas philosophe. Les ennuis m'accablent sur leur gravité, et celle-ci ne dépend pas seulement de leur forme ou de leur contenu, mais souvent d'autres aspects encore. Je les reconnais mieux que le commun des mortels, ce qui fait que je les supporte mieux. Mais enfin, s'ils ne me blessent pas, ils me heurtent. La vie est une chose fragile et facile à troubler. Dès que je suis de mauvaise humeur, quand on a cédé à la première impulsion, impossible de résister, Sénèque. Aussi stupide que soit la cause qui m'y est amenée, je m'y enfonce, et elle s'entretient, elle se renforce ensuite de son propre mouvement, entassant une chose sur l'autre dont elle se nourrit. L'eau qui tombe goutte à goutte perce le rocher. Lucrèce. Ces gouttières-là me dévorent, me rongent. Les ennuis ordinaires ne sont jamais anodins. Ils sont continuels et irréparables quand ils émanent de tracas du ménage, continuels et inévitables. Quand je considère mes affaires de loin et dans leur ensemble, je trouve, peut-être parce que je n'en ai pas un souvenir exact, qu'elles sont allées jusqu'ici en prospérant plus que je ne le voulais et ne l'espérais. Il me semble en tirer plus d'avantages qu'elles n'en offrent. Leur réussite me fait illusion. Mais quand je suis plongé dedans, comment en voir tous les éléments? 1000 choses alors me laissent à désirer et me paraissent à craindre. Les abandonner complètement m'est très facile. M'en occuper sans me tracasser, très difficile. C'est bien triste d'être dans un lieu où tout ce que vous voyez vous cause du souci, vous interpelle. Et il me semble que je tire plus de plaisir d'une maison qui n'est pas la mienne, qu'il y ait une plus grande liberté de goût, plus de naturel. Diogène répondit, comme je l'aurais fait à celui qui lui demandait quelle sorte de vie lui semblait la meilleure, « L'étranger. Mon père aimait à améliorer Montaigne, où il était né. Dans le gouvernement des affaires domestiques, j'aime suivre son exemple et ses règles, et je ferai en sorte que mes successeurs en fassent autant. Si je pouvais faire plus encore pour lui, je le ferais. » Je suis fier que sa volonté s'exerce encore à travers moi. Puisse Dieu ne jamais permettre que je laisse perdre entre mes mains quelque apparence de vie que je pourrais redonner à un si bon père. Quand je me suis mis en devoir de terminer quelques vieux pans de mur et d'arranger quelques parties d'un bâtiment mal en point, ce fut certes plus par égard pour ses intentions que pour mon plaisir. Et je me reproche ma paresse pour n'avoir pas achevé ce qu'il avait entrepris, d'autant que je serais probablement le dernier de la famille à posséder cette maison et pouvoir y laisser mon empreinte. Car s'il s'agit de mon goût personnel, ni ce plaisir de bâtir que l'on dit si attrayant, ni la chasse, ni les jardins, ni les autres plaisirs d'une vie retirée, rien de tout cela ne me plaît beaucoup. Oui, c'est l'une des choses que je me reproche, comme toutes les autres idées que j'ai qui me font du tort. Je ne me soucie pas tant de ce qu'elles soient vigoureuses et savantes, mais plutôt faciles et agréables à vie. Elles sont bien vraies et saines, si elles sont utiles et agréables. Ils me font bien de la peine ceux qui l'entendent parler de mes insuffisances en matière d'intendance. Viennent me souffler à l'oreille que c'est de ma part du dédain et que je néglige la connaissance des instruments du labourage, de ses saisons, de son déroulement, que je ne sais pas comment on fait mes vins, comment on greffe, que j'ignore le nom et la forme des herbes et des fruits, comment on apprête les viandes dont je me nourris, tout comme le prix des étoffes dont je m'habille, et tout cela parce que je n'aurai d'intérêt que pour des connaissances plus nobles, alors que ce serait pour moi de la sottise, et plutôt de la bêtise, que de la gloire. J'aime mieux être bon écuyer que bon logicien. Pourquoi ne pas faire plutôt quelque chose d'utile? Tresser des paniers avec de l'osier et des joncs. Virgile. Nous embrouillons nos idées avec les questions générales, les causes premières et la marche de l'univers, qui se portent très bien sans nous. Et nous laissons de côté ce qui nous concerne. Et Michel lui-même, qui nous touche encore de bien plus près que l'homme en général. Et si je séjourne volontiers chez moi habituellement, je voudrais tout de même m'y plaire encore plus qu'ailleurs. Que ce soit le séjour de ma vieillesse et le terme après les fatigues de la mer, des voyages, du service militaire, Horace. Bon, je ne sais si j'y parviendrai. Mais je voudrais qu'au lieu de quelque autre part de son héritage, mon père m'eût légué cet amour passionné qu'il avait dans ses vieux jours pour les affaires de son domaine. Il était très heureux de ramener ses désirs à la mesure de ses moyens et de savoir se contenter de ce qu'il avait. La philosophie politique aura beau critiquer la médiocrité et la stérilité de mon occupation, peu m'importe si je puis en prendre le goût autant que lui. Je considère que la fonction la plus honorable consiste à servir le public et être utile à tous. Car, dit Cicéron, la meilleure façon de profiter de son intelligence, de sa vertu et de toute supériorité, c'est de faire partager cela à ceux qui nous entourent. Mais en ce qui me concerne, je m'en abstiens. En partie parce que j'ai bien conscience du poids d'une telle fonction et que je vois le peu de moyens que j'ai pour l'assurer. Platon lui-même, maître ouvrier en toutes sortes de gouvernements politiques, ne manqua pas de s'en abstenir, mais en partie aussi par faiblesse. Je me contente de jouir du monde sans m'en préoccuper, de vivre une vie plutôt convenable, et qui au moins ne fasse de tort ni à moi-même, ni à autrui. Si j'avais quelqu'un à qui confier le soin et la direction de tout cela, je m'y laisserai aller plus complètement et plus tranquillement que personne ne l'a jamais fait. L'un de mes souhaits pour le moment, ce serait de trouver un gendre qui sache me cajoler et m'endormir dans mes vieux jours, et entre les mains de qui je pourrais déposer, en toute souveraineté, la conduite et l'usage de mes biens. Qu'il en fasse ce que j'en fais, gagnant à ma place ce que j'ai gagné moi-même, pourvu qu'il y apporte un cœur vraiment reconnaissant et amical. Mais de nos jours, nous vivons dans un monde où la loyauté de nos propres enfants est une chose inconnue. Celui qui a la garde de ma bourse quand je suis en voyage en dispose entièrement et sans contre-contrôle. Il me tromperait tout aussi bien si je recomptais, et si ce n'est pas le diable en personne, je l'oblige ainsi à bien faire en lui faisant une confiance aussi entière. Bien des gens, selon Sénèque, ont atteigné la trahison en craignant d'être dupés et ont par leurs soupçons justifié de mauvaises actions. Pour être sûr de mes gens, la façon dont je procède le plus souvent consiste à ne rien savoir de leurs fautes. Je ne crois aux vices qu'après les avoir constatés et je me fie aux plus jeunes que j'estime moins corrompus par les mauvais exemples. Je préfère entendre dire au bout de 2 mois que j'ai dépensé 400 écus plutôt que d'avoir les oreilles rabattues chaque soir de 3, 5 ou 7. Et en faisant ainsi, je n'ai pas été volé plus qu'un autre. Il est vrai que je prête la main à l'ignorance. J'entretiens à dessein une connaissance assez vague et trouble de mon argent. Et dans une certaine mesure, je suis content de pouvoir rester dans le doute. Il faut laisser un peu de place à la déloyauté ou à la bêtise de votre serviteur. S'il nous reste en gros de quoi faire ce que nous voulons faire grâce à un excès de libéralité du sort, laissons-le donc un peu plus courir, c'est la portion du glaneur. Après tout, je n'apprécie pas autant la fidélité de nos gens que je méprise leur larcin. Oh, la vilaine et stupide occupation que celle de surveiller son argent, de se plaire à le manier, à le recompter. C'est par là que commence l'avarice. Depuis 10 ans que je gère mes biens, Je n'ai pas su prendre suffisamment sur moi pour me résoudre à voir ni mes titres ni mes affaires importantes, dont je devrais pourtant avoir connaissance et prendre soin. Ce n'est pas par mépris philosophique des choses éphémères du monde. Je n'ai pas le goût si épuré, je les prends au moins pour ce qu'elles valent. Mais c'est bien par paresse et négligence, inexcusables et puériles. Que ne ferais-je pas plutôt que de lire un contrat et plutôt que de devenir, secouant ces poussiéreuses paperasses, esclave de mes affaires, ou pire encore, de celles des autres, comme font autant de gens pour de l'argent. Bon, je ne connais rien de pire que les soucis et les ennuis, et je ne cherche qu'à vivre nonchalamment et comment avachi. J'étais, me semble-t-il, plus disposé à vivre de la fortune des autres, si cela était possible, sans obligation et sans servitude. Et à y regarder de près, je me demande si, avec l'humeur que j'ai et le sort qui est le mien, ce que j'ai à souffrir de mes affaires, des serviteurs et des domestiques, n'est pas plus méprisable, désagréable et agaçant que le fait d'appartenir à la suite d'un homme né dans une situation plus élevée que la mienne, et qui me guiderait un peu à sa guise. Cratès fit bien pire, lui qui se jeta dans la liberté de la pauvreté, pour le délivrer des médiocrités et des soucis de la maison. Cela, je ne le ferai pas. Je hais la pauvreté à l'égard de la douleur. Mais je changerai volontiers cette sorte de vie contre une autre, moins noble, mais moins affairée. Quand je ne suis pas là, j'oublie ce genre de soucis. Et je ressens bien moins l'effondrement d'une tour que je ne ressens, quand j'y suis, la chute d'une ardoise. Au loin, mon esprit fonctionne tranquillement, mais ici, il souffre comme celui d'un vigneron. Une reine de travers à mon cheval, un bout d'étrivière qui vient me battre la jambe, et me voilà toujours de mauvaise humeur. Je mets mon courage un peu au-dessus des petits inconvénients, mais les yeux, impossible. Je suis chez moi celui qui répond de tout, ce qui va mal. Il est peu de maîtres de maison, je parle de ceux de moyenne condition, comme la mienne, qui peuvent se reposer sur un second. Mais s'il y en a, ils sont plus heureux que moi, car il ne leur reste plus qu'une part de la charge. Ces tracas modifient quelque peu la façon dont je traite mes visiteurs. Si j'ai pu en arrêter quelques-uns, peut-être c'est plus par ma cuisine que par mon accueil, comme chez les gens ennuyeux. Cela ôte beaucoup également au plaisir que je devrais avoir à être chez moi, à recevoir les visites de mes amis, à les réunir. La plus stupide situation d'un gentilhomme chez lui, c'est quand il est empêtré dans l'organisation du service, quand on le voit parler à l'oreille d'un valet et en menacer un autre des yeux. Tout devrait se passer tranquillement, de façon ordinaire. Je trouve peu distingué qu'on entretienne ces autres de la façon dont on les reçoit, autant pour s'en excuser pour s'en vanter. J'aime l'ordre et la netteté à l'égal de l'abondance. Je veille chez moi exactement ce qu'il y a de nécessaire, mais peu pour la parade. Si un valet se bat chez quelqu'un d'autre, si un plat est renversé, vous pouvez vous contenter d'en rire. Vous dormirez pendant que monsieur remettra tout en ordre avec son maître d'hôtel pour vous recevoir le lendemain. Mais j'en parle à ma guise. Je ne manque pas en général d'apprécier combien il est doux pour certaines natures d'avoir une maison paisible, prospère, conduite de façon bien réglée. Et je ne veux pas associer à cela mes propres erreurs et déconvenues. Non plus que contredire Platon, qui estime que c'est l'occupation la plus heureuse pour chacun d'entre nous de gérer ses propres affaires sans injustice. Quand je suis en voyage, je n'ai à penser qu'à moi et à la façon d'employer mon argent. Cela se règle par un seul précepte. Il est trop compliqué pour moi d'en amasser. Je n'y entends rien. Dépenser, je m'y entends un peu, ainsi qu'à faire valoir ma dépense, ce qui est en vérité son usage principal. Mais je mets trop d'application dans tout cela, ce qui fait que j'agis de façon disproportionnée et incohérente, et peu raisonnable dans les deux sens. Si la dépense se voit et si elle est utile, je m'y livre alors sans mesure. Mais je me restreins de façon aussi exagérée si elle n'est pas brillante et ne m'est pas agréable. Que ce soit l'art ou la nature qui nous impose cette façon de vivre en tenant compte des autres, cela nous fait beaucoup plus de mal que de bien. Nous nous privons de nos avantages pour nous confirmer en apparence à l'opinion commune. Ce que nous sommes réellement nous importe moins que ce que nous livrons à la connaissance du public. Même les liens de l'esprit et la sagesse nous semblent sans fruit si nous sommes seuls à en jouir, s'ils ne sont pas offerts à la vue et à l'approbation admirative des autres. Il y en a pour qui l'or sort à gros bouillons de lieux souterrains, sans qu'on s'en aperçoive, et d'autres qui l'étalent en plaques et en feuilles. Si bien que chez les uns, les sous sont des écus, et chez les autres, le contraire. Car on estime la dépense et la valeur des choses selon ce qu'on en voit. Tout soin trop attentif à ces richesses sans l'avarice. Et même leur distribution et les libéralités trop bien réglées et artificielles, elles ne valent pas qu'on y apporte une sollicitude et une attention pénibles. Qui veut dépenser de l'argent raisonnablement doit le faire dans des limites étroites, restreintes. Garder son argent ou le dépenser est indifférent et ne prend la doux couleur du bien ou du mal qu'en fonction de nos intentions. L'autre cause qui m'entraîne dans ces promenades lointaines, c'est le fait que les mœurs actuelles de notre société ne me conviennent pas. Je me consolerais aisément de cette corruption pour ce qui est de l'intérêt public, siècles pires encore que l'âge de fer, pour lesquels la nature n'a même pas de nom, n'ayant aucun métal qui les convienne, Juvénal. Mais pour mon propre compte, non. J'en souffre trop personnellement. Car dans le voisinage, nous sommes installés à présent dans une forme d'état si déréglé que c'est vraiment un miracle qu'elle puisse encore se maintenir. Je vois bien par notre exemple que la société des hommes résiste et s'accroche à quelque brique ce soir. Qu'on les mette n'importe comment, et ils s'empilent, se rangent en se déplaçant ou en s'entassant comme des objets disparates que l'on fourre dans un sac, et qui trouvent eux-mêmes une façon de se rapprocher les uns des autres, de prendre leur place, souvent mieux que si on avait voulu le faire. Le roi Philippe de Macédoine ramassa tous les hommes les plus méchants, les plus incorrigibles qu'il put trouver, et les installa tous dans une ville qui portait leur nom, ville des méchants. Je pense qu'ils établirent sur leurs vies eux-mêmes un système de gouvernement, une société normale qui leur convenait. Je vois non pas une mauvaise action, ou 3 ou 100, mais des mœurs devenues courantes et admises, si monstrueuses, inhumaines et déloyales. La loyauté étant pour moi le pire espèce de vice, je ne peux même pas les concevoir sans horreur. Et elle me fascine presque autant que je les déteste. Se livrer à des actes d'une telle méchanceté est autant la marque de la force d'âme et de la vigueur que de l'erreur et du dérèglement. C'est la nécessité qui associe et rassemble les hommes, et cet assemblage fortuit se transforme ensuite en loi. Il y en eut en effet qui étaient aussi sauvages que l'esprit humain, pour en enfanter, et qui se sont pourtant maintenus en aussi bonne santé et aussi longtemps en vie que celles de Platon et d'Aristote ont pu le faire. Certes, toutes ces descriptions de sociétés inventées et artificielles se montrent ridicules et impossibles à mettre en pratique. Ces dissensions à n'en plus finir sur la meilleure forme de société et sur les règles les plus propres à nous lier les uns aux autres ne servent qu'à exercer notre esprit, de la même façon que dans les arts libéraux, des sujets qui sont essentiellement des occasions de débat et de discussion et n'ont aucune existence en dehors de cela. Un projet de société de ce genre conviendrait pour un nouveau monde. Ben, nous sommes dans un monde déjà fait et doté de certaines traditions, non dans un monde créé de toutes pièces comme ceux de Pyrrha ou de Cadmos. Quel que soit le moyen dont nous puissions disposer pour le redresser et remettre en ordre à nouveau, nous ne pouvons guère lui ôter le pli qu'il a pris, sans tout démolir. On demandait à Solon s'il avait établi les meilleures lois possibles pour les Athéniens. Oui, dit-il. Du moins, de celles qu'ils eussent acceptées. Varron s'excuse de la même manière. Il dit que s'il avait à écrire sur la religion à son apparition, il dirait ce qu'il en pense vraiment. Mais que, comme elle fait déjà partie des mœurs, il en parlera plutôt d'après la tradition que d'après sa nature profonde. Ce n'est pas une simple opinion, c'est la vérité. Le meilleur, le plus excellent gouvernement pour chaque nation, c'est celui sous lequel elle a vécu et s'est maintenue. Nous nous plaignons volontiers de notre condition présente, mais je considère pourtant que de souhaiter remettre le pouvoir à quelques-uns dans un état populaire ou bien vouloir une autre sorte de gouvernement quand on est en monarchie, c'est une faute et une folie. Aime l'État tel qu'il le voit être. S'il est royal, aime la royauté. S'il est de peu ou bien communauté, aime-le aussi, car Dieu t'y a fait naître. Guy Dufort de Pibrac. Ainsi parlait le bon monsieur de Pibrac, que nous venons de perdre. Un esprit si noble, des idées si saines, des mœurs si douces. Cette perte, avec celle de monsieur de Foix au même moment, sont des pertes importantes pour notre couronne. Je ne sais si la France peut encore trouver un couple à substituer à celui de ces deux Gascons, avec la même sincérité et les mêmes capacités, pour servir de conseil à nos rois. C'étaient des esprits très différents et à coup sûr beaux et rares à notre époque, chacun dans sa tournure. Mais qui donc avait pu les placer à cette époque, avec laquelle ils étaient si peu en harmonie, si peu en rapport avec notre corruption et nos bouleversements. Rien n'est plus mauvais pour un État que l'innovation. Le changement à lui seul apporte l'injustice et la tyrannie. Quand quelque chose se défait, on peut l'arranger. On peut s'opposer à ce que l'altération et la corruption qui se produisent naturellement en tout ne nous éloignent pas trop des principes de départ. Mais entreprendre de bouleverser un tel ensemble, de changer les fondements d'un si grand bâtiment, c'est l'affaire de ceux qui, pour décrasser, effacent, et qui veulent réparer les défauts particuliers par une confusion universelle, guérir la maladie par la mort. Le monde est incapable de se guérir. Il a tant de mal à supporter ce qui l'ennuie, qu'il ne cherche qu'à s'en débarrasser, sans regarder à quel prix. Et nous voyons parmi l'exemple qu'il s'est guéri en général à ses dépens. Se décharger du mal présent n'est pas guérir, si la condition d'ensemble n'est pas améliorée. L'objectif du chirurgien n'est pas de faire mourir la chair malade. Ce n'est là qu'un des stades du traitement. Il regarde plus loin. Ce qu'il cherche, c'est d'y faire renaître la chair naturelle et redonner à la partie malade son état normal. Quiconque se propose seulement d'ôter ce qu'il fait souffrir n'atteint pas son but, car le bien ne succède pas nécessairement au mal. Un autre mal peut lui succéder, et même pire. C'est ce qui arriva aux assassins de César, qui amenèrent l'État à un tel point qu'ils eurent à se repentir de s'en être mêlés. Et c'est aussi ce qui est arrivé à plusieurs autres jusqu'à notre époque. Les Français, mes contemporains, pourraient bien en parler. Toutes les grandes mutations bouleversent l'État et le mettent en désordre. Qui chercherait à guérir l'État directement, mais réfléchirait avant de tenir quoi que ce soit, verrait se refroidir son intention d'y porter la main. Pacuvius Calavius montra l'erreur de cette façon de faire par un exemple remarquable. Ses concitoyens, s'étant soulevés contre leur magistrat, dans la ville de Capoue, dont il était lui-même un magistrat de grande autorité, il trouva un jour le moyen d'enfermer le Sénat dans le palais. Convoquant le peuple sur la place de la ville, il déclara que le jour était venu de se venger des tyrans qui les avaient si longtemps oppressés, et en toute liberté, puisqu'il était à sa merci, seul et sans armes. Il proposait qu'on les tirât au sort, un par un, et que pour chacun d'eux rende un jugement qui serait exécuté sur le champ, à condition qu'en même temps ils choisissent un homme de bien pour remplacer le condamné, pour que sa place ne demeure pas vide. Ils n'eurent pas plutôt entendu le nom d'un sénateur qu'un cri de mécontentement universel s'éleva à son encontre. « Ah, je vois bien, » dit Pacuvius, « qu'il faut démettre celui-ci, c'est un méchant homme. Allez, prenons-en un mot en échange. » Ce fut alors un silence soudain, car tout le monde se trouvait bien incapable de donner un nom. Au premier, plus hardi que les autres, qui en proposa un, voilà un concert de protestations encore plus géant, avec cent imperfections et bonne raison de refuser. Les opinions contradictoires s'étant échauffées, ce fut pire encore pour le second sénateur et pour le troisième. Il y avait autant de discorde dans le choix des nouveaux que d'accord pour la démission des anciens. S'étant inutilement fatigués à ces disputes, les voilà qui commencent, un par-ci, un par-là, à quitter l'assemblée, chacun ramenant dans son esprit cette conclusion que le mal le plus vieux et le mieux connu est toujours plus supportable que le mal récent et dont on a le moins pu faire l'expérience. Je nous vois bien lamentablement agités par tout ce que nous avons pu faire. Hélas, nos cicatrices, nos crimes, nos guerres fratricides, nos couvrent de honte. Devant quelle horreur avons-nous reculé, nous les enfants d'un siècle barbare? Quel sacrilège n'avons-nous pas commis? La crainte des dieux a-t-elle pu retenir les mains de nos jeunes gens? Quels autels ont-ils épargnés? Horace. Non, mais je ne vais pas pour cela conclure. La déesse salue sans personne ne voudrait-elle, elle ne pourrait pas sauver cette famille. Terence. Nous ne sommes peut-être pas, pourtant, parvenus à notre terme. La permanence des états est quelque chose qui probablement se situe au-delà de notre intelligence. C'est, comme le dit Platon, quelque chose de fort et difficile à défaire qu'une organisation civile. Quelque chose qui souvent résiste à des maladies internes et mortelles, aux dommages causés par d'injustes lois, à la tyrannie, au débordement et à l'ignorance des magistrats de la cité, au laisser-aller et à la sédition populaire. Dans toutes les situations où nous met le hasard, nous nous comparons toujours à ce qui est au-dessus de nous, nous regardons vers ceux qui sont mieux placés que nous. Mais comparons-nous à ceux qui sont au-dessous. Il n'en est pas de si misérable qui ne trouve mille exemples qui le consolent. C'est un défaut chez nous d'être plus mécontent de voir ce qui est au-dessus de nous que content de voir ce qui est au-dessous. C'est Solon qui disait pourtant que si l'on faisait un tas de tous les mots ensemble, il n'y a personne qui ne choisirait de repartir avec ses propres mots plutôt que de partager de façon équitable ce tas avec tous les autres et d'en prendre sa quote-part. Notre état se porte mal. Il y en a pourtant qui étaient plus malades et qui n'en sont pas morts. Les dieux jouent à la balle avec nous et nous lancent dans tous les sens. Les dieux se servent de nous comme de balles. Plaute. Les astres ont choisi le destin du gouvernement de Rome comme exemple de ce dont ils sont capables. Rome comprenait en elle-même tous les aspects d'un état et toutes les vicissitudes qu'il peut rencontrer. Tout ce que l'ordre, le désordre, le bonheur et le malheur peuvent y produire. Qui pourrait désespérer de sa condition en voyant les secousses et les mouvements dont cet état fut agité et qu'il supporta? Je ne partage pas l'idée selon laquelle l'étendue de sa domination témoigne de la santé d'un état, car l'état romain dans ces conditions ne fut jamais aussi en bonne santé que quand il était le plus malade. Et le pire de ces formes fut alors celle qui lui valut la plus grande célébrité. Isocrate a raison de dire à Nicoclès qu'il ne faut pas envier les princes dont les possessions sont vastes, mais ceux qui savent fort bien conserver celles qui leur sont échues. Sous les premiers empereurs, c'est à peine si on pouvait distinguer la présence d'un État dans la plus épaisse et la plus horrible confusion que l'on puisse concevoir. Et pourtant, Rome supporta cela et s'y maintint, non pas comme une monarchie enterrée dans ses limites, mais en sachant conserver tant de peuples si divers, si éloignés les uns des autres, se détestant, mal commandés et injustement asservis. Tout ce qui ébranle alors ne s'effondre pas pour autant. La charpente d'un si grand corps a plus d'un clou. Il tient même du fait de son antiquité, comme les vieux bâtiments auxquels l'âge a rongé la base, sans crépit et sans ciment, et qui pourtant vivent et se soutiennent par leur propre poids. De toute façon, ce n'est pas une bonne méthode d'examiner seulement le flanc et les fossés pour juger de la sûreté d'une place forte. Il faut voir aussi par où on peut y pénétrer et dans quel état se trouve l'assaillant. Peu de navires sombres sous leur propre poids, sans violence extérieure. Or, si nous regardons autour de nous, nous voyons que tout s'écroule. Dans tous les grands états que nous connaissons, de la chrétienté ou d'ailleurs, si on y regarde de près, on trouve une évidente menace de changement et de ruine. Les astrologues ont beau jeu de nous prévenir, comme ils le font, des grands changements, des grandes mutations prochaines. Leurs divinations sont actuelles et palpables, il n'est pas besoin d'aller chercher cela dans le ciel. Nous ne devons pas seulement chercher à tirer une consolation de cette universalité du mal et de la menace, mais encore quelque espérance quant à la durée de notre état, d'autant plus que naturellement rien ne se produit comme on l'attendrait. La maladie universelle n'empêche pas la santé particulière. La conformité est une qualité qui est l'ennemi de la dissolution. Or, ce qui me concerne, je ne sombre pas dans le désespoir. Il me semble apercevoir des routes pour nous sauver. Peut-être un lieu, Dieu, par un retour favorable, viendra-t-il remettre les choses à leur place, Horace. Qui sait ? Peut-être Dieu voudra-t-il qu'il en soit comme pour les corps, qui se purgent et se remettent en meilleur état après de longues maladies. Celle-ci, en effet, laisse après elle le corps avec une santé plus pleine et plus nette que celle qu'elle lui avait ôtée.